conférence, d'où l'interversion, l'inversion. Voilà. Et donc, on attend Daniel Siboni qui va arriver dans un instant, mais je ne me sens pas capable de faire une animation spontanée. Oui. Ni une danse, ni un discours. Donc, je vous demande 3 minutes, 2 minutes, ou 1 minute de patience, puisqu'il est déjà le voilà. OK.
Voilà, c'est bon.
D'accord. Bien, donc il me revient le plaisir et l'honneur d'introduire, je vais le faire très vite, hein, parce que ce n'est pas important ce que je peux avoir à dire, mais quand même, d'introduire la conférence de Daniel Siboni, que nous sommes heureux donc de recevoir. Et je ne vais pas vous faire l'injure de présenter Daniel Siboni, je vous rappelle quand même, très vite, en un mot, que Daniel Siboni est psychanalyste, et philosophe, et mathématicien et écrivain, ce qui constitue une personnalité tout à fait singulière. Et je lui passe immédiatement la parole.
Merci.
Oui, bien sûr.
Voilà. Je ne suis pas en retard. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis à Besançon. Voilà, il faut que vous le sachiez. Et que je suis donc venu à votre rencontre. Alors, je crois qu'on m'a transmis un titre un peu particulier, Rencontre de soi dans l'autre, c'est ça ?
Dans la relation
soignant-soigné. En fait, le thème est très général, et la rencontre, simplement les termes sont à interroger, la rencontre de soi, est-ce que le soi est tellement défini pour qu'on puisse rencontrer soi dans l'autre, et est-ce que cet autre qu'on a devant soi, lui-même, est tellement précis dans ses contours? Donc, il faut revenir à un questionnement sur la rencontre comme telle. Et de la manière la plus fréquente, la plus insistante et la plus diversifiée, dont la relation thérapeutique est aussi un aspect, mais pas le seul. Tenez, puisque le hasard a fait que j'ai reçu mon tout dernier livre qui parle des rapports islam-occident. Ça s'appelle « Islam-phobie-culpabilité ». Ben, il s'agit de la rencontre entre deux cultures, entre deux manières d'être, une rencontre qui ne semble pas aller de soi et qui donc pose des problèmes, pas seulement du côté de la phobie, de la culpabilité, mais du côté du faire ensemble, du côté de ce qu'on appelle un peu par cliché, vivre ensemble. Et j'évoquerai ces problèmes. Et rencontre de soi dans l'autre, dans la relation thérapeutique, qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Moi, ça m'a évoqué le thérapeute qui qui possède ses repères et qui est content de les trouver dans l'autre qu'il rencontre. Les repères qu'il a, imaginons, il est de telle école, il a les signifiants, les symboles de cette école, de sa formation, de son maître, et ça lui sert à alimenter son fond d'identification. Donc le soi, c'est un potentiel d'identification qui est plus ou moins diffus et qui permet de reconnaître des éléments de soi, des éléments de ses propres identifications dans l'autre. Et alors là, se pose un dilemme très fréquent, mais qu'on ne pense pas assez. Qu'est-ce qui se passe quand on reconnaît un fragment de soi, un fantasme, un symbole qui fait partie de soi, quand on le rencontre dans l'autre ou dans la réalité, dans une réalité? Il se passe qu'on en jouit. Et la jouissance peut être telle que on est sûr d'avoir atteint un terme du chemin. On peut même être fasciné. J'ai terminé ces jours-ci un manuscrit sur Heidegger. Et Heidegger est un type pathétique à qui il est arrivé de reconnaître des éléments de soi, de sa théorie, dans le mouvement nazi. Et il en a été littéralement foudroyé pour quelques mois, fasciné. Donc rencontrer des éléments de soi chez l'autre devrait sonner l'alerte. C'est-à-dire, non pas attention, on va s'identifier, mais attention, je vais risquer de m'arrêter dans mon processus de recherche. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une relation thérapeutique ? Une relation thérapeutique, quelle que soit l'approche de l'idée psy qui y est mise en œuvre, une relation thérapeutique, c'est la capacité pour le thérapeute d'offrir au patient un univers assez ouvert et assez vaste pour qu'il puisse y mener sa recherche. Donc, à la limite, c'est l'autre qui doit rencontrer des choses de lui dans cet écran ouvert qu'on lui propose et qui n'est pas soi, qui est l'ouverture de soi à toutes sortes de possibles. C'est complexe parce que la question que cela pose va donc plus loin que la rencontre d'éléments de soi chez l'autre ou d'éléments de l'autre chez soi. C'est la rencontre, la question plus ontologique, plus fondamentale de la rencontre d'une pensée avec une réalité. Parce que là, on est en train de vivre une scène où un individu dispose de cette chance inouïe qu'il ne connaît nulle part ailleurs, dont il n'a pas pris toute la mesure, à savoir non seulement qu'il peut dire tout ce qui lui vient, non seulement qu'il peut impliquer l'autre à tort et à travers, puisqu'il n'y a pas de normes pour le tort et le travers, non seulement déployer ses fantasmes, mais, et ça il l'ignore bien souvent, et même le thérapeute l'oublie, instaurer un régime de parole dans lequel le performatif est à l'ordre du jour. C'est-à-dire, pendant qu'il parle, on peut intervenir sur ce qu'il dit comme si c'était un faire. Donc, le performatif, c'est faire ce qu'on dit ou dire ce qu'on fait. Et le thérapeute doué, c'est celui qui peut capter dans ce qui se dit la possibilité de faire acte. Faire acte, certes, de parole, mais avec les dimensions de l'acte. Vous venez là, non seulement de répéter, mais vous venez de me dire cette parole, qui a compté autrement, etc. Et donc, la puissance, la force d'interprétation est très aiguë, parce qu'on ne ramène pas ceci à cela, on ne ramène pas le présent ou le futur au passé. Bien sûr, ça se fait en passant, si je puis dire, mais on crée avec tout le matériau mobilisé, et c'est la seule justification des associations libres, c'est d'amener un matériau suffisamment diversifié et riche pour qu'on puisse faire acte. Acte, que le mot acte a été un petit peu galvaudé, par exemple, chez les Lacaniens, qui l'ont presque toujours assimilé à la coupure. Voilà, parce que Lacan était très pressé, et l'acte, pour lui, était la coupure de séance. Et peut-être qu'il faut être aussi doué qu'il l'était pour faire des coupures intéressante, mais la coupure, ça ne suffit pas. Acte, ça veut dire trouver de quoi ramasser suffisamment de paroles évocatrices, intenses, pour que le seul fait de les nommer soit un acte, un appel à en finir ou un appel à commencer autre chose. On est tous confronté dans le travail thérapeutique à cette tâche ardue d'aider des personnes à faire le deuil de ce qu'elles ont eu et surtout à faire le deuil de ce qu'elles n'ont pas eu, c'est-à-dire de ce qui leur a manqué et qu'on ne peut pas leur remplacer. Des êtres qui n'ont pas eu un soutien du père, une parole bonne de la mère qui autorise, qui permet le passage. Faire acte, c'est ouvrir un passage. Des personnes qui n'ont pas eu ces paroles appui, ces soutiens, peuvent vous développer une conception des choses, une perception du monde absolument pathétique où tout est disponible et où rien n'est possible. Parce que la personne n'a pas de quoi faire le pas, c'est-à-dire faire acte d'y aller. Alors, donc, ayez en tête ce rapport, donc, non pas de soi à l'autre, mais de la pensée de soi à la réalité que constitue l'autre en présence du thérapeute, dans ce que j'appelle un entre-deux, où le plus difficile est de pouvoir avancer en présence du tiers, ou sous le signe du tiers, ou sous le signe du fait qu'on est l'un et l'autre des fragments d'être qui essayent d'articuler le pas suivant et non pas en position frontale où on est face à l'autre pour scruter, repérer, et puisque on le fait très bien, on peut très bien repérer et payer tellement cher ce repérage qu'il est inefficace. Exactement comme dans un couple. J'ai en tête l'image d'un patient qui essaye désespérément de retrouver chez l'autre, chez sa partenaire, cette partie de soi qui lui manque, qui est une parole. Et sa partenaire est impeccable, du côté du fonctionnement, mais n'a aucune parole tendre. Et plus il pointe à quel point elle est psychorigide, à quel point elle est fonctionnelle, à quel point elle ignore l'essentiel de la relation qui est l'amour, etc., plus elle se raidit. D'autres théoriciens ont montré comment le piège de la relation à l'autre est évidemment le miroitement dans lequel l'un et l'autre se renvoient l'image que chacun redoute. Donc, j'opposerai ce que j'appelle la dynamique de l'entre-deux, c'est-à-dire la mise en présence de l'un et l'autre, chacun avec sa recherche, avec son manque, et le fait que l'un et l'autre tentent de se mettre tous deux sous le signe de ce que j'appellerais le regard de l'être. Lacan aurait dit le regard de l'autre, du grand autre, d'autres diraient la présence de l'inconscient, etc. Je préfère dire sous le regard de l'être ou à la face de l'être, parce que je conçois de plus en plus mon travail de thérapeute comme un travail de passation d'être, de passeur d'être, c'est-à-dire de passeur qui transmet à des êtres arrêtés sur ce qu'ils sont la possibilité de ne pas se réduire à ce qu'ils sont. Quelqu'un a mis d'ailleurs ça en exergue à mon blog, ne pas se réduire à ce qu'on est. Je ne savais pas qu'ils avaient apprécié la formule. Donc, opposer cette dynamique d'entre-deux, dynamique d'entre-deux, l'opposé au clivage, évidemment, l'opposé au rapport frontal, l'opposé aussi à cet aspect du rapport de l'entre-deux qui est inévitable, que j'appellerais la séduction. Il n'y a pas de rencontre possible sans séduction, c'est-à-dire sans la promesse chez l'un et chez l'autre que quelque chose de l'ordre de ce qui leur échappe, mais qui leur est précieux, va s'articuler. Donc, la promesse d'un événement. La rencontre est de l'ordre de l'événement et non pas de l'ordre de l'effectuation. On ne fait pas exprès de se rencontrer. J'ai fait rassembler mes textes sur la rencontre. C'est pour ça que j'ai branché cet ordi, mais je n'aurais pas le temps de le consulter. Et ça fait beaucoup de textes, il y a de quoi faire un petit livre, rencontre. Et j'ai trouvé un petit chapitre qui s'appelle « Le charme du pas de rencontre ». Parce qu'on entend tellement dire la rencontre, l'importance de se rencontrer. Je suis allé là-bas pour rencontrer, alors tu as rencontré, etc. Et vous savez, la rencontre est une fonction essentielle de l'être humain. Et la preuve, c'est qu'il y a une industrie de la rencontre. Le voyage est une fonction essentielle de l'être humain. La preuve, c'est qu'il y a une industrie du voyage. Et d'autres choses encore. L'amour des beaux objets est une inscription essentielle dans le noyau de l'essence de l'être humain. Et il y a une industrie de l'art, etc. Donc, le fait qu'on bavarde beaucoup sur la rencontre et que même il y ait une industrie et que d'ailleurs, il n'y a pas à la déconsidérer parce que c'est vrai qu'on y trouve des gens qui viennent répéter leurs symptômes de l'impossibilité de rencontrer qui se traduit dans la cure par le fait, par l'impossibilité de prendre acte ou de faire acte de l'événement qui pourtant est là. Je me souviens d'une patiente qui a traîné des années une sorte de malédiction paternelle Parce que le père avait dit un jour, mais tu es nul, tu n'arriveras à rien, etc., confiant à son ami qu'il avait dit ça pour la stimuler. Elle avait encaissé ça comme une espèce d'objet empoisonné et a organisé son absence de rencontre et de rencontrabilité en fonction de cette malédiction jusqu'au jour où, sans que je puisse vous dire pourquoi, et c'est aussi ce qui les surprises de la cure, jusqu'au jour où elle a dû aller se décider, aller s'inscrire dans un atelier d'art, faire un petit voyage, etc., puis constater que quand les gens, la santé disposée à les rencontrer, il l'a rencontrée. Autrement dit, un beau jour, elle a risqué de se laisser rencontrer, c'est-à-dire elle a risqué de transgresser la malédiction paternelle qu'elle avait traduit en ces termes « tu es moche, tu n'as aucun attrait, tu ne peux intéresser personne », etc. Elle avait construit cette chose-là et comme une espèce de... Ben, en fait, comme d'autres construisent une enveloppe narcissique beaucoup plus calme, plus débonnaire, mais où on sent que toute mise en question peut être terrifiante. Et donc, voilà. Et ils ne sont pas prêts à l'événement de la rencontre qui est finalement plus précis que ce qu'on disait au début, qui n'est pas la rencontre de l'un et l'autre, mais le croisement de l'un et l'autre, sachant que chacun d'eux va à la rencontre de l'être, du possible. Autrement dit, le pas de rencontre, le charme du pas de rencontre, c'est de renoncer à rencontrer les gens, mais d'être en ouverture d'être et sensible au fait que certains vont à la rencontre de leurs limites, à la rencontre de ce qu'il y a juste au-delà de leur nez ou de leur perception ou de leur discours. C'est une constatation que, pour ma part, je fais en toute occasion. Hier, j'étais à la FIAC, à Paris. Je parlais d'une œuvre à un galeriste. Et bon, voilà, c'était cohérent parce que j'écris sur l'art et le prochain livre sera, ça s'appelle Fantasme d'artiste et c'est sur l'art contemporain. Et je me suis rendu compte que les choses intéressantes venaient juste après que j'avais fini de lui parler. C'est-à-dire comme si les choses intéressantes venaient là où mon discours avait fini par s'échouer, par frapper à la porte de l'autre, de l'être, du hasard, de quelque chose, qui amenait alors les mots les plus aigus, que je n'avais pas dit. C'est étonnant. Ce qui veut dire que, en fait, notre quête de la rencontre, c'est quelque chose de plus, de plus émouvant que ce qu'on imagine, c'est qu'on essaye d'aller l'un et l'autre à la rencontre du hasard favorable, du coup de hasard qui nous mettrait à trois. Si on se rencontre à deux, c'est qu'on est déjà trois. Avec ce hasard dont on dit qu'il n'y en a pas quand il y en a et dont on dit qu'il y en a quand il n'y en a pas. Hein ? Vous savez qu'on dit... Comme par hasard, il est entré. Et puis, on a joué dans d'autres circonstances, on dit, et comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Or, il y a du hasard. C'est évident. Quand Freud dit, dites-moi un chiffre quelconque, et je vous montrerai que vous ne l'avez pas choisi par hasard, c'est un acte de foi qu'il fait. Il vous dit, livrez-vous au hasard, et moi, je vous aiderai à être pour quelque chose dans cet acte de confiance que vous avez fait au hasard. Exactement comme quand il dit à Dora, quelle est ta part dans les malheurs dont tu te plains? Ça ne veut pas dire, enfin évidemment, après ces émules l'ont traduit en termes de culpabilité. Quelle est ta faute, etc. Et alors on entre dans un cycle infernal parce qu'on devient coupable de se sentir coupable. Mais il lui dit simplement, dis-moi quelque chose qui me permette de te faire part de cette histoire et de me faire moi-même partie prenante de cette histoire. D'en faire une partie à trois. Toi, moi et les autres. Les autres étant les personnages, étant le hasard, le destin, l'histoire, appelez ça comme vous voulez. Donc, le pas de rencontre, et évidemment, j'ai dû mettre ce titre pour, le pas de Calais, hein, le pas de rencontre, c'est-à-dire il y a un pas dans la rencontre, et il faut le franchir, et ce n'est pas toujours évident. Donc, je vous ai dit un mot de ce livre-là, mais je vais prendre un petit exemple que j'y analyse pour vous montrer l'absence de rencontre. C'est une histoire qui m'a été racontée, ça se passe dans une classe de banlieue. La prof veut faire un peu d'éducation religieuse, ou plutôt veut faire un peu d'histoire des religions. Alors, elle commence son cours. Il y a, sur les monothéismes, il y a trois monothéismes. Le premier, c'est le judaïsme. Le deuxième, c'est le christianisme. Le troisième, et là, il y a une main un doigt qui se lève, qui dit, madame, vous avez faux, l'islam, c'est le premier. Alors, elle dit, non, écoutez, je ne parle pas de la qualité, je ne parle pas de la valeur, je parle de la chronologie. Le premier, c'est le judaïsme, le deuxième, le christianisme, le troisième, la même main se lève, madame, vous avez faux. C'est la première. Et là, c'est toute la classe ou la majorité qui prend parti pour le gosse. Enfin, le gosse, il était classe de première, je crois. Et la prof renonce. Et j'ai trouvé ça typique, justement, d'un évitement de la rencontre. Parce que, évidemment, elle n'est pas préparée, parce qu'avec sa formation peut-être très, très carrée, c'est où tu admets la chronologie, où on ne se parle pas. Or, ce gosse, ce qu'il disait, n'était pas fou du tout. Il avait reçu ou entendu ou deviné dans sa tradition, qui lui a été transmise par des voies parfois non explicites, que le Coran avait été écrit avant la Bible. Bon, ben d'accord, c'est une croyance. Qu'est-ce qui a empêché cette prof de dire, selon la croyance de cette religion, c'est le livre sacré est écrit avant, mais selon la croyance commune en la chronologie, il est daté du 7e siècle, etc. C'est-à-dire, il y a eu une peur de quoi ? Justement, et c'est ce que je démontre dans ce livre, non pas une peur de l'autre culture, une peur de l'islam. Je ne pense pas qu'il y ait d'islamophobie, et je le montre dans ce livre. Une peur de passer pour islamophobe, c'est-à-dire une peur de passer pour méconnaître l'autre, rejeter l'autre, etc. Alors on dit surtout pas. Donc on n'en parle pas. Et ça m'a rappelé, quand j'écrivais le livre Violence, le même épisode, mais cette fois sur l'homosexualité. Le prof dit quelques idées de Socrate, les élèves notent, et soudain, un grand, gaillard au fond de la classe se lève, jette son stylo et dit « Monsieur, il y en a marre que vous nous racontiez les pensées d'un PD. » Alors le prof dit « Mais tu es fou, la pensée de quelqu'un n'a rien à voir avec sa sexualité. » Et lui, le prof qui me raconte ça, je lui dis « Et vous, vous pensez ça ?» Il me dit « Non. » Je lui dis « Pourquoi vous l'avez dit ?» Donc, il a eu peur de l'affrontement. Or, ce qui se passait était pourtant très clair. Cet adolescent était peut-être en période de réhésitation sur le choix de l'objet, etc. Il entend valoriser la partie qui, de lui-même qui lui fait peur ou qui l'attire, peu importe. Et on lui dit « Non, ça n'a rien à voir. » Donc, on n'en parlera pas. Voilà l'évitement de la rencontre. Et il faut consacrer dans cette conférence une longue parenthèse, c'est ce que je fais, à l'évitement de la rencontre dans notre culture vernie, polissée et sans problème, agréable, où l'idéal est d'éviter l'affrontement et de ne jamais faire de vagues. Autrement dit, ça réduit beaucoup les petites... Les quoi ? Ça réduit beaucoup les ressorts de la rencontre qui tiennent en un mot que je vais vous dire, la transversalité. C'est-à-dire, c'est quand on prend les choses en travers, qui, pas de travers forcément, mais en travers. La rencontre, ce n'est pas aller face à l'autre, ça c'est un obus, c'est la percussion. Non, la rencontre, c'est se laisser traverser son chemin par quelque chose qui vient latéralement, donc qui dévie. C'est d'ailleurs de là que vient l'étymologie de la séduction. Séduction, séducere, c'est détourner de son chemin, être détourné de son chemin. Rencontrer, quelque part, c'est être détourné. Pas forcément en restant dans la séduction. La séduction est un passage obligé, mais rester dans la séduction, c'est un bon point de départ pour des montages pervers. Donc, la rencontre, l'idée de la rencontre. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps, ça fait 40 ans que je pratique la psychanalyse, commencé par la psychothérapie d'enfants. J'ai psychanalysé des gens de toutes écoles. Et puis ça fait une quarantaine d'années aussi que j'écris, ce qui fait que j'ai écrit une quarantaine de livres. Et donc j'ai constamment présent à l'esprit et dans le corps le fait que ça n'avance que par la rencontre. L'écriture avance par la rencontre de quelque chose d'inattendu qui vient dévier votre fil. Sinon, c'est de la communication. La communication aussi est très honorable. D'ailleurs, il y a une industrie de la communication. Ajoutez ça au chapitre précédent. Je ne veux pas vous parler des marchands de téléphonie et de toutes nos aventures avec la communication, où l'idéal semble être de n'avoir personne à l'autre bout du fil. Mais le fait qu'on avance avec son filon d'écriture et on rencontre, on est rencontré par quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'écrire une fiction ? Qu'est-ce que c'est que lire une fiction ? Les deux relèvent d'un même désir qui est arriver à rencontrer quelque chose qui vous fasse rencontrer ce que vous ignoriez de vous-même, c'est-à-dire tel fantasme, tel signifiant, telle situation, tel rappel, tel appel à autre chose qu'à ce que vous êtes. Bien, c'est le ressort de la création, de l'œuvre d'art. Donc, la rencontre de bribes, alors je dis plus de soi dans l'autre, la rencontre d'éléments de son potentiel de possible et d'identification et de désidentification dans le travail avec l'autre, dans l'être avec l'autre, dans le but de provoquer en lui justement cette capacité de se rencontrer, c'est-à-dire d'aller à sa rencontre comme s'il venait du dehors, comme s'il venait d'ailleurs. Encore ce matin, avant de me précipiter pour être à l'heure et prendre le train, j'ai un patient qui souffrait de dépendance, de soumission par rapport à son frère aîné depuis son enfance. Et là, chaque fois qu'il se trouve, il a 55 ans, plus, et le frère en a 75, mais chaque fois qu'il se trouve près de son frère, il est sous emprise. Il est, quoi que dise le frère, il ne trouve pas de quoi répondre, de quoi donner signe d'existence par lui-même, de quoi, bref, signifier une certaine liberté. Et ce matin, quelque chose s'est produit. Il a raconté une scène où le frère avait dit des bêtises une fois de plus pour le rouler dans la farine devant les autres à une soirée. Et là, il a commencé à envisager un jeu qui serait extérieur, c'est-à-dire où il aborderait cette scène venant du dehors, où il irait à la rencontre des scènes d'emprise dans lesquelles il était pris. Et c'était assez émouvant de voir que il ne disait pas ça en termes de rencontre, il n'allait pas se rencontrer lui-même, mais il parlait pour la première fois de ce lien avec le frère comme de quelque chose où il allait pouvoir intervenir à partir d'une autre ressource, où il allait pouvoir prendre les choses en travers, traverser. Vous savez que certains ont fait de la traversée du fantasme, le but même de l'analyse, traverser le fantasme. C'est justement le prendre en travers, le prendre latéralement de façon à... à pouvoir le nommer déjà, à pouvoir l'appeler autrement, plutôt que d'être appelé par lui. Ah, il reste 3 minutes. Très bien. Très bien. Oh ben, vous savez. Bon, alors, je vous offre ces 3 minutes. À vous, ça vous fera 13 minutes de questions. Non, mais c'est. Mais vous savez, on est entre nous. Hein, on peut. Je n'ai pas une quantité de savoir à vous injecter. Donc, voilà. Donc, il y a, et je vais conclure, puisque la forme l'exige, et je vais conclure par le fait que, par un exemple, il y a des gens qui se connaissaient depuis très longtemps. Un homme et une femme qui travaillaient ensemble. Et puis un jour, l'un d'eux m'a dit: aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, on s'est rencontrés. Il dit: comment ça? Vous vous fréquentez depuis toujours? Il dit: oui, mais aujourd'hui, on s'est rencontrés. C'est-à-dire que à l'intérieur d'une rencontre peut se produire la rencontre. Autrement dit, la rencontre est un potentiel d'appel, de rappel, c'est-à-dire des fonctions fondatrices de la mémoire. Mémoire de l'acte et mémoire du passé. Donc, d'appel, de rappel, et de traversée. C'est-à-dire que dans le cadre d'une rencontre déjà intégrée, un autre niveau de la rencontre, c'est-à-dire de ce que j'appelle l'appel d'être, peut se faire entendre. L'appel d'être est une de mes notions que je développe dans un livre qui s'appelle « L'enjeu d'exister, analyse des thérapies ». C'est paru au Seuil, où je montre comment l'essentiel de l'idée freudienne peut s'entendre en termes ontologiques et pas seulement en termes de rappel, remémoration, catharsis, transfert, etc. Merci.
Je me permets de remercier. Je remercie Daniel Siboni, non pas pour tout ce savoir, mais pour tous ces stimulantes pensées. C'est comme ça que moi j'ai pris. Oui.
Ah, le pas de rencontre. Oui.
Merci.
Et puis une autre question peut-être. Hein?
D'autres questions? Une autre question, bah oui, pour enchaîner, pour grouper les réponses, pour que Daniel Siboni ne fasse pas des réponses pointues.
Allez, encore une ou deux questions.
Oui, bonjour, merci Daniel Siboni, Mustapha Meslem.
Oui.
Je pense, pour ma part, que la question que vous soulevez entre les trois religions monothéistes tourne autour de celui qui est l'enfant favori, un petit peu la notion de rivalité fraternelle, celui qui va être effectivement entre l'aîné, le puîné et le dernier. Et j'opterai plutôt pour cette question-là. Et puis peut-être la réponse qu'a donnée ou non-réponse cet enseignant, c'est aussi, peut-être l'abordez-vous, je vais le lire, voir un petit peu si, ce qu'il en est, votre livre. Quand il lui dit non, le premier, c'est le Coran. Rien dans la littérature, je dirais, de l'islam ne dit cela. Ce qu'elle dit, et ça c'est vrai, c'est que Abraham, c'est le père fondateur, et Abraham est musulman, c'est-à-dire c'est un croyant. Donc ça, peut-être qu'il a été amené à faire cette sorte-là, mais il parle bien de tous les textes sacrés, ce qu'on appelle les gens du livre. Et les gens du livre précèdent le Coran et l'islam. Donc ça, c'est, et moi, je pense que c'est la question de la rivalité fraternelle par rapport au père fondateur. Et d'ailleurs, ça se retrouve très très bien. Je veux dire, quand on parle souvent, on entend souvent parler de culpabilité. Il y a une exclusion. Je ne sais pas si une islamophobie, mais en tous les cas, le discours contre tout ce qui est arabe ou islam a remplacé le discours qu'il y avait avant concernant les juifs et les francs-maçons. Ça, c'est une réalité mondiale. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fonctionne. Et un dernier point, quand je disais effectivement que c'est par rapport à cette question-là, ça pose la question de, quand on dit par exemple culpabilité judéo-chrétienne, quand on dit cela, on évacue la troisième. Je préfère entendre culture abrahamique. Donc, il y a bien quelque chose de l'ordre de la rivalité fraternelle qui se pose dans un fonctionnement qui est de cet ordre-là. La question de l'origine en partage, en fin de compte. Voilà, la question de l'origine en partage. Moi, je vois plutôt ça de cette manière-là.
Vous savez, j'imagine que c'est le sous-titre de mon livre « Entre deux ». Mon livre « Entre deux », qui est paru il y a 20 ans, a comme sous-titre « L'origine en partage ». Il est paru aux éditions du Seuil et il est en poche. Et donc, et j'ai évidemment écrit sur les trois religions, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les trois monothéismes », j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nom de Dieu » et Dieu merci, je lis tous ces textes dans l'original, donc je peux vous dire que les choses ne sont pas aussi simples. Bien sûr qu'il y a une rivalité fraternelle, mais bien sûr que Mahomet a dû construire, avait un gap fantastique à franchir, puisqu'il devait construire quelque chose qui aille rejoindre Abraham à travers Ismaël, Agar, etc., sans nommer Agar. Le Coran ne la nomme pas, et pour cause, pas une seule fois, parce que non seulement c'était une esclave, mais il aurait fallu faire état du fait que dans la Bible, elle est renvoyée par Abraham avec Ismaël. C'est pénible. Donc il y a tout un ajustage identitaire à travers les textes, mais le gamin que je citais, il ne lit pas le Coran, il reçoit ce qu'il reçoit, et vous avez fait état du fait que le Coran dit, le Coran ne peut pas dire, si, il le dit quelque part, que son texte était dans Umm al-Kitab, dans la mère du livre, avant la création, alors que les autres, il les accuse d'avoir écrit de leurs mains leur livre. Et lui, il dit que son livre a été écrit par Dieu. Ça, c'est tout à fait dans le texte. Mais ce que vous citiez est très intéressant, et je vais vous dire pourquoi, et après je reviens au pas de rencontre. Et le verset en question, c'est « Aux gens du livre, pourquoi vous battez-vous au sujet d'Abraham ?» Abraham n'était ni juif ni chrétien, car la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui. Je pourrais vous le citer en arabe. Oui, Abraham. Et le verset suivant dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était hanif, ça veut dire pieux, musulman. Or si, vous trouverez dans l'exégèse, si la Torah c'est ce qui fait les juifs, l'évangile c'est ce qui fait les chrétiens, le Coran c'est ce qui fait les musulmans, donc des jeunes ou des moins jeunes peuvent déduire. Vous comprenez que si Abraham était musulman, et si d'ailleurs dans le Coran Moïse est musulman, Joseph est musulman, et le Coran a islamisé rétroactivement les gens d'avant, ils peuvent déduire que l'islam était avant. Moi, ce que je dis, c'est que la prof, elle a eu la trouille. Elle a eu la trouille devant ça. Parce que c'était à la limite, nous parlons de la rencontre. La rencontre, c'est ce qui vous met à la limite. À la limite, ça ne veut pas dire à bout. Si vous êtes installé dans votre cadre, alors la limite, c'est ce qui vous met à bout. Et un pas de plus, et vous êtes hors de vous. Donc, il vaut mieux rester dans le cadre. Et je dis, c'est dommage, parce que ça reste dans le non-dit, et ça engendre, et c'est ça que j'analyse dans ce livre, ça engendre une phobie au second degré, parce que moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Il peut y avoir un discours contre l'islam, mais les gens qui le tiennent n'ont pas peur de l'islam. Ils tiennent un discours parce qu'ils en ont marre d'un certain silence, d'un certain secret, d'une certaine censure qu'ils s'imposent à eux-mêmes, la prof. La prof s'est imposée une censure que personne ne lui a imposée. Alors qu'elle aurait pu dire, écoutez, voilà un bel exemple d'approche différente. Alors, je vais vous expliquer, et puis voilà. Et elle renvoie l'autre, le jeune homme, à sa famille, à sa culture, et qu'il s'explique avec. On est d'accord ? Voilà.
Ce que disait d'ailleurs Dieu par rapport effectivement au Dieu, c'est vrai que ne pas dire à quelqu'un non, je n'accepte pas ça, c'est aussi permettre que les choses continuent et qu'on les utilise. C'est ça. Et le problème, c'est
Et c'est exactement ce que j'analyse. Vous savez, ce sont ces situations, et moi j'ai tendance à considérer que les gens, en dehors de nous trois, que vous avez nommés, que les gens n'en pensent pas moins et sont parfaitement en mesure qu'ils soient musulmans, chrétiens, laïcs, mécréants, tout ce qu'on veut, sont parfaitement capables de percevoir le problème et de se le poser. Et je peux vous dire, j'analyse là des situations incroyables. Un jour, j'étais en présence d'un type qui n'est pas le dernier venu, ni un ignorant, qui est Malek Chebel, qui est un psychanalyste, anthropologue, islamologue, et qui dit... Il faudrait bien qu'on nous dise un jour s'il y a dans le texte fondateur de l'islam de la violence envers les autres. Comment ? Je lui ai dit, mais tu n'es pas analphabète. Pourquoi tu n'as pas été voir toi-même ? Or, bien sûr que ma question en appelle une autre. Bien sûr qu'il a été voir lui-même. Et bien sûr qu'il le sait comme vous, que c'est une identité qui s'est construite, comme la plupart des identités, sur une violence envers les autres. Les Juifs qui disent « Dieu nous a... » Non, non, ce n'est pas la violence dont parle la Torah, c'est que l'acte de dire « Dieu nous a élus », c'est un acte de violence envers tous ceux qui ne sont pas élus, si du moins ils croient à cette même chose. Mais c'est une violence différente que de dire « tuer ceux qui ne croient pas en Dieu et en son prophète ». Or ça, c'est écrit. « Qatilo, ladina, kafaro, etc. »« Qatilo, tuez-les ». Donc, les violences sont différentes, il faut parler... Il faut parler de ces choses-là, et ce que j'ai pointé sous le signe de phobie et de culpabilité, c'est une véritable autocensure qui a des effets pervers, nuisibles aux uns comme aux autres. Je passe maintenant au pas de rencontre. Alors, le pas de rencontre, c'est un petit texte que je vais peut-être m'offrir dont je m'offrirai de vous lire quelques petits passages. Les vacances approchent. Là, elles sont finies. Chaque revue évoque la rencontre et nous mène dans ce thème bateau avec tous ses clichés, de l'ouverture à l'autre, aux séductions légères, subtiles, poussives, angoissantes, impatientes. L'enjeu, bien sûr, est de se faire plaisir à deux au terme d'un dur labeur d'embuscade, de prédation, où l'on joue son image à chaque tournant et monte des gémissements toujours les mêmes. Pourquoi je ne rencontre pas ? Pourquoi c'est jamais le bon ou la bonne ? Plainte dont beaucoup reviennent à ceci. Pourquoi personne ne veut me rencontrer ? Et toi, tu veux te rencontrer ? Non. Eh bien, les autres font pareil. Et puis, le texte continue pour dire que, vous savez, ça, j'avais en tête une phrase d'un humoriste anglais qui avait dit « Ma mère a fait exprès de me mettre au monde ». Ça dit tout ce que ça veut dire, voilà. Donc, soyez sensibles à la rencontre, mais ne faites pas exprès de rencontrer. Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà. Merci.
Nous avons droit, paraît-il, à 15 minutes maximum, grand maximum de pause.
Excusez-moi, avant la pause, je ne vais pas vous annoncer des PV, hein, mais pour ce soir, pour le dîner, il faudra prendre un bus si vous n'avez pas de moyen de locomotion. Donc pour se rendre au restaurant Le Clémenceau, depuis la place Granvelle qui est en face du Cursal, vous prendrez le bus numéro 7, direction Campus. Et il faudra descendre à l'arrêt Clémenceau. Pour revenir du restaurant, le Clémenceau, il faudra prendre le bus B, direction Orchamps. Vous descendrez à l'arrêt Grange. Pour les hôtels qui sont au centre-ville, le dernier bus est à 20:30. Ça sera affiché, là, parce que sinon, je ne suis pas sûre. Oui, oui, c'est affiché. Hein. Ça sera affiché à l'entrée. Merci.
Oui, tous ceux qui n'ont pas signé la fiche d'émargement, s'il vous plaît, vous pourriez passer signer. Merci.
Ah, je croyais qu'on l'a fait. C'est encore pas fini ?